affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous portons tous en nous la trace indélébile de chocs esthétiques, d'éblouissements qui parfois, sans même que nous en ayons conscience, nous laissent comme transformés, transfigurés, parce qu'ils nous ont laissé entrevoir, fût-ce un instant, une vérité d'un ordre supérieur. C'est probablement une telle expérience qu'a vécue Florence Delay et qu'elle nous conte dans un ouvrage qui trouve son point de départ il y a plus de 50 ans, lorsque, au musée des Beaux-Arts de Séville, elle a découvert les jeunes saintes peintes par le peintre espagnol Zurbarán. Dans cet ouvrage titré « Haute couture », il est bien sûr question de ces saintes. L'ouvrage est sous-titré par l'éditeur « Une robe, une vie », mais il est question de bien d'autres choses, bien sûr, car en nous plongeant dans ces étoffes, nous allons découvrir tout un univers bien plus vaste, un univers où, comme dans les tissus d'ailleurs, beaucoup de choses sont tissées, entremêlées, de façon à les réconcilier d'ailleurs. Nous découvrirons que l'esthétique peut aller de pair avec la métaphysique, que le ciel et la terre finalement ne font qu'un, et nous en viendrons même à douter que le passé soit différent de l'avenir, tant tout cela finalement dans notre perception finit par ne faire qu'un, si l'on veut bien plonger à l'intérieur de nous-mêmes et se tourner vers les autres, tendre l'oreille et regarder la beauté du monde. Florence Delay, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous vouliez nous parler de cet éblouissement initial et de ce qu'il a déclenché en vous tout au long d'une vie, finalement?
Merci beaucoup d'introduire par l'éblouissement. Parce que c'est la vérité, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire un choc esthétique de jeunesse, oublié, et puis réavivé, par hasard, par un voyage à Madrid où j'ai découvert d'autres tableaux de Zurbarán, par un exposé que j'ai écouté dans un colloque sur l'histoire de l'art, un exposé sur un tableau de Zurbarán qui représente le martyr de Saint Sérapion. Vous voyez, au moment même de dire qu'il représente, je trouve que le verbe est faux. Parce qu'il y a, comment dire, une telle présence dans les peintures de Zurbarán qu'on oublie qu'il s'agit d'une peinture. Non, on n'oublie pas qu'il s'agit d'une peinture. Mais c'est plutôt un état d'âme que ces tableaux suscitent en nous. Et c'est donc ce souvenir ébloui du premier voyage à Séville, de la découverte d'œuvres, de la découverte de grandes jeunes femmes, très belles, debout, figures entières, merveilleusement vêtues, presque grandeur nature. C'est ce souvenir qui a eu le bonheur de disparaître, et c'est en ce sens que j'aime bien l'oubli, pour réapparaître à divers moments, me donnant envie d'en parler.
Et d'y revenir. Alors au départ, mais c'est vrai probablement de toute personne qui observe ces tableaux, ça commence par une sorte de malentendu, c'est-à-dire lorsqu'on les voit, ces jeunes saintes peintes par Zurbarán, on est d'abord ébloui par la magnificence des parures, des étoffes, c'est un peintre du drapé, des couleurs aussi, Zurbarán, et dans un second temps, après l'éblouissement, vient l'effroi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Vient l'énigme, finalement. Parce que, au début, comme vous dites, on est ébloui. Et puis, comme un étrange bijou anormal dans le tableau. Elles tiennent à la main ou présentent un objet qui, lui, représente toute la cruauté du monde. Une lance, une épée, une roue dentée et un flambeau. Et on s'interroge et puis finalement, voilà, ces jeunes vierges et martyrs sont mortes de cette façon. Et chaque tableau, chacune, tient avec une indifférence extraordinaire l'instrument de son supplice. Comme si c'était chose nulle et non advenue. Comme si tout cela était loin laissé derrière. Loin laissé derrière, maintenant qu'elle se trouve, alors, on ne peut imaginer qu'une chose, qu'elle se trouve au paradis. Et c'est peut-être une des façons d'expliquer ces habits de gala qu'elle revête et cette beauté qu'affectionnait l'Église catholique de la contre-réforme, cette beauté des apparences, hein, car il ne faut pas oublier que Sourbaran est un peintre donc du XVIIe siècle qui a vécu à Séville et que dans ce moment très catholique de l'Espagne, nombreuses sont les processions qui sont festives, qui sont des moments de fête et des moments de décors et costumes extraordinaires. C'est la question de la beauté des ornements, de la beauté en soi qui, à l'horreur des protestants, honore le Créateur dans l'esprit de la religion catholique.
Oui, en voyant ces saintes, on ne peut pas douter que ce soit une religion de l'incarnation.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est en ce sens que c'est une religion qui ne sépare pas le profane du sacré. Il y a quelque chose de profane dans les costumes de ces saintes, qui les sacralise encore davantage. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et voilà, donc, j'ai été si étonnée de cette séparation entre le tableau et l'histoire qui était derrière, enfin l'histoire de la jeune femme ou la jeune fille représentée, que j'ai pensé que ça pouvait être un principe de composition. Et c'est celui donc que vous citiez au début, une robe, une vie. Chacun des courts chapitres est ainsi composé. Et j'ai eu le bonheur de redécouvrir un livre que j'avais lu pour d'autres circonstances, La légende dorée de Jacques de Voragine. Il faut dire que je suis très affectionnée aux légendes. Alors, la légende arthurienne particulièrement, mais à toutes les légendes. Et que finalement, les vies de ces saintes sont des vies légendaires. On ne sait pas quelle est la part de ce qui est vraiment arrivé. Et parce qu'en plus, le Moyen-Âge, dans sa crédulité, imagine, ou dans son affection, imagine une kyrielle de supplices après le premier duquel, vous et moi, on serait morts. Hein? Or, il s'enchaîne comme si le corps était immortel lorsque une âme, une grande âme, l'occupait.
Oui, là encore, d'ailleurs, on sent le... On a parlé de l'effroi que pouvait faire naître la réunion de ces jeunes et belles femmes en habit d'apparat avec l'instrument qui a servi à les torturer et les faire trépasser. Cette réunion peut être dérangeante, mais féconde, finalement. Mais de la même façon, elles sont confrontées à des persécutions qui sont dues, pour la plupart, à des païens. Elles affirment haut et fort qu'elles sont du nouveau monde, celui de la nouvelle foi, qu'elles veulent rompre avec ce paganisme, qu'elles raillent, d'ailleurs, souvent avec de l'esprit, du moins sous la plume de Jacques de Voragine.
Oui.
Mais en réalité, ces histoires-là sont totalement païennes. Au-delà même d'être profanes, on leur prête des attributs qui sont de l'ordre ou le secours de forces surnaturelles, capacité à retourner la situation comme des magiciennes, presque.
Certes, et non seulement païennes, ces histoires, entre guillemets, mais à ma grande stupéfaction, quand j'ai fini le livre, actuel. Je pensais être dans l'inactualité complète. J'aime beaucoup l'inactualité. Et puis finalement, je me suis rendu compte que on est en face de deux fanatismes parce que elles courent vers le supplice, n'est-ce pas ? Elles courent. Il y a une histoire de deux jeunes sœurs que leur mère, effrayée de leur intrépidité, envoie à la campagne pour être sûre qu'elles seront sages et qui s'enfuient pour se présenter au juge romain et dire qu'elles appartiennent à la secte. Et donc, il y a de leur côté, comme de la cruauté féroce des Romains, leur foi éperdue en leur dieu à eux. Il y a par exemple les deux saintes qui sont les patronnes de Séville, sainte Juste et sainte Rufine. Elles vivent à Séville pendant l'époque romaine. Bon. Et on promène dans Séville, une fois par an, une grande statue de Vénus pleurant son amant Adonis. Bon. Et les deux sœurs, qui sont chrétiennes, envoient elles sont potières, elles envoient tout leur peau contre la statue. Et la foule veut les lacérer, les amène immédiatement, elles seront torturées. Je veux dire, chaque camp défend ses dieux avec une férocité ou une abnégation qui mène au martyr.
Voilà. Toutefois, même en observant cette opposition frontale, on ne peut que constater que la façon dont les hauts faits de ces martyrs sont rapportés est de nature totalement païenne.
Oui.
Totalement païenne.
Oui, vous avez raison.
Elles appartiennent aussi à cet ancien monde.
Oui.
Mais peut-être parce que, comme vous le dites, les choses sont totalement imbriquées.
Imbriquées.
Il n'y a que les pauvres humains qui croient opposer, les pouvoir s'opposer, être dans la pureté, l'opposition totale, peut-être.
Oui. Non, mais les bêtes sauvages qui s'arrêtent devant telle sainte, qui refusent de les dévorer. Voilà, ce sont des histoires magiques.
Dans ce défilé de saintes, il y en a toutefois quelques-unes qui ne sont pas des martyrs. Vous commencez par celle-ci. Est-ce que
oui,
vous pouvez nous en
oui.
parler ? Parce que les histoires sont charmantes. Ça va nous permettre de respirer un petit peu après avoir pensé aux crochets, aux roues dentées et autres. Je pense notamment à Sainte Cassilda.
Sainte Cassilda. Oui, alors, il s'agit d'un miracle qui se termine bien, c'est-à-dire qui pas par une condamnation. Ce sont en fait comme Cassilda de Tolède ou Isabelle de Portugal n'ont eu à subir que les remontrances d'un mari ou d'un père. C'est un très beau miracle qu'on retrouve un peu partout en Europe, d'ailleurs au Moyen-Âge, et même qu'on retrouve à Lima, avec Sainte Rose de Lima. On l'appelle le miracle des roses. Et dans le cas de Cassilda, c'est la fille du roi de Tolède, au 11e siècle, je crois, me rappeler. Cassilda, on est en pleine guerre des moros et des chrétiens. Cassilda va nuitamment en se cachant, visiter les prisonniers chrétiens qui sont des moines ou des prêtres, qui sont dans les geôles de Tolède, alors que son père, bien sûr, lui a interdit de s'approcher des cachots. Et elle leur apporte de quoi les réconforter. Et elle leur demande de l'instruire dans leur religion. Elle a été éduquée dans le Coran, elle a appris à lire et à écrire dans le Coran, mais elle est très curieuse de cette... Et alors, voilà, un jour, l'émir apprend que sa fille désobéit, il fait semblant de partir, il revient à l'improviste, elle a un manteau extrêmement gonflé, et il lui demande d'ouvrir son manteau, et il dit, qu'avez-vous, que portez-vous? Et elle dit, des fleurs. Il dit, montrez-moi. Elle l'ouvre, et ce sont des fleurs qui tombent de son manteau, alors qu'elle a porté du pain, qu'elle a porté de quoi se réchauffer. Et on retrouve, avec beaucoup de variantes, une de mes préférées variantes, c'est celle d'Isabelle du Portugal. Alors son mari la surprend, alors c'est pas son père, là, c'est son mari. Que portez-vous dans votre manteau? Elle répond, des roses. Et il dit, il n'y a pas de rose en hiver. Parce qu'on est au mois de janvier. Et c'est merveilleux, parce qu'effectivement, le céleste jardinier, immédiatement, met des fleurs des champs et des roses dans les plis de sa robe. Et ça, Sobaran l'a représenté avec une grâce infinie, parce que les fleurs ne sont qu'un tout petit morceau des grands portraits, comme caché dans les plis de la robe. J'aime beaucoup ce miracle qui finit bien parce que après les époux et maris dépités laissent ces femmes vivre leur vocation.
Nous reviendrons sur ce rapport entre femme et époux, fille et père, car il traverse quand même beaucoup de ces histoires où homme qui convoite et qui désire ces femmes, car elles sont désirées et elles refusent de se soumettre à ce désir. Là aussi, c'est peut-être quelque chose d'intemporel et dans lequel il y aurait d'autres lectures que les lectures purement religieuses ou apologétiques.
D'ailleurs, vous avez raison de le remarquer, finalement, c'est le désir des hommes, leur convoitise, qui est souvent à l'origine de l'arrestation de la jeune femme et le marché est mis entre ses mains où elle couche, où on la détruit.
Où elle couche, elle se convertit, où retrouve le paganisme, où on les détruit. Mmh. Oui. Cela dit, revenons quand même à cette sainte Cassilda dont nous rappelez que Cassida en arabe signifie, et c'est la même racine donc on est d'accord, oui. Signifie poésie.
Poésie, oui.
Alors là, c'est peut-être la première des correspondances qu'on peut examiner, c'est que tout cela est extrêmement poétique, à la fois dans la façon dont c'est raconté par vous, mais aussi par Jacques de Voragine. On est au-delà de la raison, on est au-delà de l'explication de texte, d'une apologétique où on essaierait de prouver des choses. Mmh. Les vérités qui sont présentées sont d'un autre ordre.
D'un autre ordre. Vous avez tout à fait raison.
Et par ailleurs, puisqu'on est dans les correspondances, Cassida, c'est un poème qui vous tient particulièrement à cœur, je crois.
Oui, je pense que c'est le nom qui m'a attiré vers elle. Oui, parce que c'est le premier poème de Federico Garcia Lorca que j'ai traduit. Je vous raconte en deux mots.
Oui, je veux bien que vous racontiez, et même si vous voulez bien nous faire la gentillesse de nous le lire, ce serait bien volontiers.
Donc, ce poème de Lorca, c'est le premier que j'ai traduit, et je l'ai traduit dans un livre magnifique, dont j'étais très fière, Les œuvres complètes de Federico, qui était un cadeau d'un grand ami de ma mère, le poète René Char. Et René, en m'offrant ce livre, sachant que je commençais à avoir une passion pour l'Espagne, m'a dit « Lis et traduis ce que tu aimes ». Et ça a été merveilleux, cette parole, parce qu'elle m'a autorisé. Alors, cette cassida, Charles a fait publier dans ce tout petit, un des plus petits exemplaires du monde, une revue que faisait son ami Pab, l'éditeur Pab. Et alors voilà encore une chose, c'est que Lorca a été très marqué par la lyrique arabo-andalouse et il s'est inspiré d'elle pour pas mal de ses recueils. Sur les branches du laurier, j'ai vu de colombes obscures. L'une était le soleil et l'autre était la lune. Petite voisine, leur dis-je, où est ma sépulture ? Dans ma traîne, dit le soleil. Dans ma gorge, dit la lune. Et moi qui cheminais la terre à ma ceinture, je vis deux aigles de marbre et une jeune fille nue. L'un était l'autre et la jeune fille n'était aucune. Petits aigles, leur dis-je, où est ma sépulture ? Dans ma traîne, dit le soleil. Dans ma gorge, dit la lune. Sur les branches du laurier, j'ai vu deux colombes nues. L'une était l'autre et les deux n'étaient aucune.
L'une était l'autre et les deux n'étaient aucune. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'un des messages de ces saintes ? L'une était l'autre et les deux n'étaient aucune. Traduit de façon un peu vulgaire, est-ce que tout n'est pas dans tout ?
Je ne sais pas, je n'ai jamais compris ce vers et je l'ai adoré tout de suite. Voilà, parce que c'est... Ben, tout va par deux, les colombes, les petits aigles, tout se dirige vers la mort, puisque la question est où est ma sépulture ? Le lien est fait avec le cosmos, le soleil et la lune. Je trouve vraiment ce poème... merveilleux et définitivement mystérieux. Ce que je demande souvent à la poésie.
Il relie, non ?
Pardon ?
Il relie, comme ces saintes nous relient.
Oui, c'est cela.
À quoi ? Je ne sais pas. Mais
nous relie sans que nous sachions très bien à quoi. Sinon à quelque chose qui nous dépasse. Et voilà ce qu'on pourrait demander à nos amis qui nous écoutent, c'est de croire à ce qui nous dépasse. Par exemple, la justice, la vérité. Pour certains, Dieu. Et la beauté. Quand ce monde, j'adore, disait Dubélé, déjà.
Et un autre mot qui nous vient à l'esprit en parcourant votre ouvrage, c'est celui de hasard. J'ai l'impression, il y a un moment où vous citez Théophile Gautier en disant, qui disait que le hasard, c'était un pseudonyme utilisé par Dieu lorsqu'il ne voulait pas signer.
Oui, alors ça c'est une phrase extraordinaire.
Superbe.
Le hasard est peut-être le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne veut pas signer. Je trouve que c'est une définition extraordinaire du hasard.
Nos vies sont jalonnées de hasard, du reste. Vous en révélez quelques-uns, de hasard ou de correspondance, justement.
Oui, alors, vous employez ce mot, il a été très important pour moi, parce qu'il a été une des clés, une des clés du livre. Il a ouvert une porte qui débouchait sur le XXe siècle et sur la haute couture, littéralement, qui n'était pas celle que j'attribuais à Sourbaran, mais celle d'un autre grand couturier. Enfin, Sourbaran n'était pas couturier.
Vous avez la couture avec ses pinceaux, vous dites.
Mais il peint avec... Oui, il coud avec ses pinceaux. On a l'impression, vraiment. Toutes les découvertes autour de Sourbaran sont très récentes en fait, parce que son contemporain Velázquez a été beaucoup plus admiré que lui tout de suite, et c'est le XXe siècle qui a mis Sourbaran à égalité avec les Velázquez ou les Goya. Et beaucoup de recherches ont été, sont dues d'ailleurs à des historiens de l'art français comme Odile Delinda et d'autres. Et on a découvert, entre autres, qu'il était fils de drapier. Et moi, ça m'a... Là aussi, ça a été une clé, parce que il a vu et connu, dès l'enfance, les étoffes. Il les a caressées, il s'en est peut-être entouré. Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est une des rares choses qu'on sache. On a au fond que des actes notariés sur lui. On sait très peu de choses en dehors des actes notariés.
Oui, car il était plutôt discret de nature, cet homme.
C'était un silencieux. Enfin, je l'imagine pieux et silencieux. Et puis, peut-être envisageant aussi son travail. Parce que finalement, beaucoup de ces tableaux, enfin, il y a les tableaux attribués au maître et les tableaux attribués à l'atelier. Or, le mot espagnol pour atelier, c'est obrador. Et dans obrador, on peut entendre une variante d'ouvrier. Et il y a quelque chose dans ces ateliers de peintres du 16e, 17e, qui travaillent dans la production, avons-nous envie de dire, d'images religieuses, de sculptures, de peintures. Il y a quelque chose d'artisanal et que j'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas encore la superbe de la signature.
L'artiste est encore un artisan avant tout.
Oui.
Et se vit comme tel.
Oui.
On est loin du 19e siècle, qui se profile pourtant déjà à l'horizon.
Oui.
Et qu'il appréciera aussi, non?
Ah oui. Mais alors, comment les Français ont-ils découvert Sourbarane? Grâce à un des grands voyous de l'histoire napoléonienne.
Mais c'est pas très glorieux. mais ces pages-là méritent d'être lues aussi. Car
Non.
Voilà. Racontez-nous cette histoire, elle est édifiante.
Bon, un des grands maréchaux napoléoniens, le maréchal Soult, qui avait un prénom extraordinaire, comme Jean de Dieu, je crois, il s'appelait Jean de Dieu, bref. S'est retrouvé, pendant les guerres napoléoniennes, l'invasion de l'Espagne, disons-le clairement, s'est retrouvé gouverneur de Séville. Et il a immédiatement dévalisé tous les couvents. Et a entrepris une collection faramineuse qui, lorsque les Français ont été boutés hors d'Espagne, qu'il a emporté avec lui. Et on allait voir les maîtres espagnols. Je crois qu'il a emporté 80 sourbaranes et beaucoup de Murillo, Velázquez, etc. Et les Français ont découvert, par exemple, Delacroix a découvert la peinture espagnole chez le maréchal Soult.
Oui, c'est ça, parce qu'il ne les emmène pas pour le mettre dans un musée public,
ah, pas du tout.
Mais pour le mettre dans son hôtel particulier.
Et même dans son
testament. On est vraiment dans le razzia pur et simple à titre privé.
À titre privé. Et quand il meurt, dans son testament, il lègue à ses enfants et non pas à l'État toutes ses peintures.
Oui, ce qui prouve que...
Il y a eu deux moments importants pour les romantiques français. Ça a été la galerie espagnole de Louis-Philippe et la maison du maréchal Soult. Et la galerie espagnole de Louis-Philippe avait été acquise sur ses propres deniers. Ce qui fait que quand il s'est exilé en Angleterre, le gouvernement français lui a rendu tous ses tableaux. Ce qui désespérait Baudelaire en disant « La stupide République aurait dû garder tous ces chefs-d'œuvre. »
On ne peut que lui donner raison. Vous avez cité un autre nom tout à l'heure, celui de Balenciaga. Et puis ensuite, notre pensée a dérivé, mais...
Et je ne voulais pas dire son nom.
Ah, vous ne vouliez pas dire son nom,
non,
mais je suis désolé.
Non, vous m'avez
trahi. Ben, je suis navré. Mais il est important dans le...
Et il est capital, dans il est la clé de voûte.
Voilà. Alors, quand même, pour m'absoudre, il figure en quatrième de couverture.
Eh oui, mais ça, c'est les éditeurs.
Donc, j'étais aussi grossier que l'éditeur. Mais puisque le mal est fait, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots et
oui, alors,
les
voilà,
raisons pour lesquelles ils sont en correspondance?
J'ai été très étonnée en consultant des livres sur Sourpahane un jour, de découvrir en parallèle des modèles de robes de Balenciaga et des détails de Sourpahane. Et un article qui développait très, très sérieusement ce parallèle. Et donc j'étais très émue parce que Balenciaga était le couturier préféré de ma mère. Et quand elle avait la possibilité de s'acheter une robe, mais elle l'avait connue très jeune parce que Balenciaga a commencé comme un petit tailleur à Saint-Sébastien avant de devenir célèbre. Et donc j'ai été visiter le Museo a Balenciaga à Guetaria, qui est un petit port de pêche dans le Pays Basque espagnol, où Cristobal Balenciaga est né. Et effectivement, je me suis rendu compte que dans l'historiographie de Sourpahane, maintenant, c'est devenu une sorte de vérité, de correspondance, c'est le mot que j'ai trouvé, entre des tailles basculées, des capes, des grands jetés dans le dos, des écharpes, une façon de bouger les plis, d'accentuer les plis. Et c'est très très impressionnant. C'est très impressionnant.
L'explique-t-on ?
Comment ? Non, 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 il faut lire un sonnet de Baudelaire qui s'appelle Correspondance, réécrit par Jacques Roubaud, pour comprendre. Et ça c'est une opération poétique, hein, c'est un mystère poétique. Et en plus, j'ai eu l'impression que Balenciaga était comme Sourpahane, un homme secret, mystérieux, pieux, profondément chrétien. Alors voilà, correspondance.
Si vous me permettez, je vais lire un court passage des correspondances, justement, de... Ah non, c'est un texte... Jacques Roubaud, inspiré, si j'ai bien compris, des correspondances de Baudelaire. Il est des tissus nus comme des esprits saints, durs comme des tambours, noirs comme des agates, et d'autres excessifs, étrangers, incertains, ayant la sûreté des choses délicates, la soie et le gazard, le taffetas, l'esco, qui chantent les transports de la chair et du mot. C'est bien à cela que vous faisiez référence.
Oui, j'étais très heureuse que Roubaud accepte d'écrire ces variantes des deux tercets, qui achèvent le sonnet Correspondance de Baudelaire. Je trouve ces vers très beaux.
Ils le sont.
Parce que, voyez-vous, Balenciaga a... insatisfait des étoffes existantes, on a fait fabriquer de nouvelles, a demandé à des sociétés textiles d'inventer des tissus comme le gazard, par exemple. Quand même, c'est extraordinaire, être insatisfait de ce qui existe.
Vous avez utilisé le mot pieux pour le définir tout à l'heure. On n'est pas ici pour se confier sur... son plus fort intérieur, mais tout de même, lorsqu'on termine cet ouvrage, votre ouvrage, on a le sentiment que vous-même, à votre façon, vous êtes pieuse aussi. Est-ce que vous pouvez vous accepter de nous en parler un petit peu ?
Alors, oui, je suis très attachée à la religion chrétienne. Là aussi, il y a eu une jeunesse... une jeunesse où j'étais pleine de zèle, et puis l'oubli, pendant des années de cette religion, et elle est revenue. Elle est revenue, elle a réapparu. Et c'est un grand soutien pour moi. C'est un soutien d'émerveillement par la parole, par la parole des évangiles qui me semble ne pas avoir vieilli du tout. D'émerveillement et d'espoir. D'espoir en essayant de regarder tranquillement ma mort. Donc voilà, je suis attachée par la vie et la mort à cette religion.
J'en reste quoi? Parce que ça soulève de nombreuses questions. Est-ce que par ailleurs, elle ne fait pas partie par l'ensemble de ses productions? Est-ce qu'elle ne rentre pas aussi dans nos vies par les fibres? On retombe sur l'étoffe de la poésie, de la peinture. Est-ce qu'il est possible pour un Européen, allais-je dire, et puis qui plus est pour quelqu'un qui aime l'Espagne, d'y échapper, finalement? Est-ce que ce n'est pas une illusion de croire qu'on puisse s'en extraire totalement?
Oh, écoutez, il y a des fuites partout. Tout le monde s'enfuit de cette religion. On est obligé de donner des cours d'histoire sainte aux futurs conservateurs du Louvre, sinon ils ne peuvent absolument rien comprendre à toute la production de peinture du Moyen-Âge et de la Renaissance. Non, là on est dans un moment de désaffection très grand, et surtout de pauvreté. Et ça, c'est notre richesse, c'est-à-dire que l'Église n'a plus aucune puissance. Et je crois que ça, c'est sa grande force actuelle. Elle est dépourvue de toute puissance.
Curieux, à l'époque de Zurbaran, c'est l'inverse.
Absolument.
Elle est surpuissante, magnificente, opulente.
Oui.
Et pourtant séduisante aussi, finalement.
Et pardon ?
Et pourtant séduisante aussi. D'une autre façon.
Alors écoutez, je ne sais pas. Tout ça va en même temps avec le tribunal de l'Inquisition, avec la hantise de la pureté de sang. Il faut décliner, il faut présenter pour toute charge d'honneur un dossier pour jurer que dans votre famille, il n'y a pas une goutte de sang juif. Ce dossier, d'ailleurs, a été rempli par Velázquez. Quand Velázquez a voulu devenir Caballero de Santiago, chevalier de Saint-Jacques, il a dû fournir des documents pour justifier. Non, c'est en même temps une église terrible.
Oui, ce que je trouvais séduisant en fait, mais c'est peut-être à travers vos descriptions, c'est les descriptions que vous faites des processions, de l'émotion qui peut s'emparer des gens à ce moment-là. Ce sont des moments très sensuels. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ces étoffes, cette église baroque qui joue sur les couleurs est une église qui ne rejette pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le corps, la sensualité, une forme de volupté, même si elle est d'ordre purement, bien sûr, esthétique.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que vous êtes en train de dire, ça existe toujours. Parce que si vous allez à Séville ou dans n'importe quelle ville espagnole pendant la Semaine Sainte et que vous assistez au Passos, vous avez cette émotion grandiose, esthétique, sensuelle, et même, je cite là, dans le petit livre, une saeta. La saeta, c'est ces petites flèches, des couplets improvisés sur le passage des chars, des représentations, enfin des statues de la Macarena ou du Christ du grand pouvoir. Et là, il y a, je cite une saeta, donc quisiera estar contigo como los pies de Jesucristo, el uno encima del otro, un clavito entre los dos. Et si je me permets de traduire, c'est je voudrais être avec toi comme les pieds de Jésus-Christ, l'un au-dessus de l'autre, un petit clou entre les deux. Pardon, mais la confusion entre deux nuits est totale.
Mais écoutez, correspondance et confusion, finalement, sont peut-être aussi des synonymes, et c'est pourquoi l'ouvrage est très riche. Il réconcilie, il trace à travers des phénomènes qu'on croit contraires, justement, des correspondances, et c'est pourquoi il nous fait du bien, car il nous pousse à sortir de nous-mêmes et à nous réconcilier. Finalement, on revient encore à la religion, le diable, c'est celui qui sépare. L'étoffe, c'est ce qui est entremêlé, et tous les petits chapitres de votre livre sont entremêlés pour former quelque chose qui, comme le nom de Dieu, on a du mal à nommer, mais qui est bien présent.
Merci.
Merci à vous, et j'incite donc nos auditeurs à me pardonner de ne pas pouvoir mettre de mots précis sur cet objet littéraire, et donc à s'y plonger eux-mêmes, car c'est la seule chose à faire. Le livre s'appelle « Haute couture » par Florence Delaide de l'Académie française, chez Gallimard. Merci infiniment d'avoir accepté de converser avec nous.
Merci.